France Culture.
Bonsoir, Anouar Abouaïché.
Bonsoir.
Cinquième et dernier entretien avec vous, sans doute le plus grave et le plus lourd, car même si votre vie de Palestinien occupé, colonisé, exilé n'a pas toujours été simple, nous allons évoquer dans cet épisode le premier quart du XXIe siècle. Précédemment, on a parlé de votre retour en Palestine avec votre épouse et vos enfants français. Un retour à Hébron, après les accords d'Oslo, plein d'espoir de créer un État palestinien, laïque et démocratique. Sauf que du processus de paix, il ne reste ni paix, ni processus. On est plutôt dans un processus de guerre, accéléré, aggravé, après le 7 octobre 2023. Vous nous en parliez dans le quatrième épisode. Ce processus de guerre débute le 28 septembre 2000. Le chef de l'opposition de droite en Israël, Ariel Sharon, se rend sur l'esplanade des mosquées. Cette visite est considérée comme l'étincelle de la deuxième intifada. Vous étiez à Gaza quand cette intifada a éclaté. Est-ce que vous êtes surpris ou est-ce que vous vous attendiez à cette nouvelle intifada ?
Encore une fois, je ne croyais pas mes oreilles. Je me souviens très très bien que j'étais dans ma voiture, revenant de Gaza à Hébron, et j'entends à la radio une guerre, des tirs. Les Israéliens et les Palestiniens, ce jour-là, ils sont entrés dans une bataille armée. Il y a eu des dizaines de morts de deux côtés. Vraiment, j'avais du mal à croire. Je me suis dit, mais où on est, quoi? Et après, tout a commencé à se dégrader très rapidement dans tous les domaines. Et donc, c'était le début d'un grand conflit. Il y a eu beaucoup de tentatives de sauver les accords d'Oslo, beaucoup de bonne volonté. Mais c'est surtout les extrémistes qui les ont emportés. Et encore une fois, en tête, les colons. Parce que déjà avant l'intifada, la colonisation s'est continuée. Et je me souviens d'avoir une discussion avec des députés travaillistes à la Knesset. Et je leur disais, bon, l'esprit des accords d'Oslo, c'est le gel de la colonisation. Arrêter la colonisation. Et il y en a qui me répondaient, eh oui, mais on ne peut pas arrêter parce que c'était des décisions qui ont été prises par le gouvernement précédent. Eh ben, je ne crois pas que c'était impossible de changer ça et d'arrêter la colonisation. À mon avis, on aurait arrêté l'expansion et le grandissement des colonies à l'époque. On serait dans une autre situation et peut-être dans une situation de réelle paix. Et donc, déjà le terrain était préparé pour un conflit armé, non armé, quoi. Parce que la colonisation, quand vous parlez de colonisation, vous parlez d'espace. Il ne nous reste plus d'espace. Il n'y a plus d'espace pour les fermiers, pour les paysans et pour les citadins aussi. Et en plus, quand vous avez plus de colons, vous avez plus d'agresseurs, de méchants, de fous. Fous, normalement, et fous de Dieu. Et c'est vraiment grave. Hein. Les colons empoisonnent la vie de tout le monde, y compris à des Israéliens, souvent. Les Israéliens qui sont pour la paix, ils sont agressés aussi par les colons. Donc, oui, c'est c'était le début de plus de souffrance, quoi. Plus de encore une fois, plus de fermetures, plus de barrières, plus de checkpoints, plus de démantèlement de la Cisjordanie.
Et ça, vous le vivez quotidiennement à Hébron, dans votre vie. Vous vivez quasiment en couvre-feu permanent.
Absolument. Et en plus, bah, on a même pris un logement à Jérusalem parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Et pour sortir, on pouvait souvent pas sortir. Il y avait plus du tout liberté de mouvement. Et surtout que l'armée est entré partout, partout, partout. Les notions de zone A, où on est censé être autonome, qui a été respectée jusqu'au début de l'intifada, ça a été respecté à Hébron, en tout cas pendant 3 ans, disons 3 ans et demi, où les soldats israéliens n'entraient pas dans la zone A. Eh ben, en 2001, ça y est, ils sont entrés, et depuis, on peut croiser les jeeps de l'armée à toute porte dans toutes les villes, et il n'y a plus de zone A. C'est déjà cassé l'esprit des accords d'Oslo par rapport à l'autonomie. On était censé être autonome, puis élargir l'autonomie, puis organiser des élections, et arriver à un État. C'était ça, l'esprit des accords d'Oslo. Ah ben, tout est cassé.
Tout est cassé, économiquement, socialement, c'est difficile pour les habitants d'Hébron à cette époque-là.
Moi, je crois que lorsque la deuxième intifada a commencé, pendant des mois, on avait des Palestiniens qui avaient faim. Et ça, ça n'est pas arrivé depuis la Première Guerre mondiale. Parce que tout d'un coup, fermeture, 200 000 ouvriers de moins. Même les gens qui avaient de l'argent ont fini leurs argent. Moi, j'ai vu des hommes d'affaires à l'époque qui n'avaient pas de l'argent pour acheter de la nourriture, hein, et qui faisaient la queue aux associations caritatives. Comme maintenant, un peu. Hein. Maintenant aussi, rien ne va plus. L'autorité doit aux fonctionnaires une année de salaire. Les hommes d'affaires palestiniens sont coincés par l'occupation, par le manque d'argent, par les plus de 900 barrières et fermetures, où on peut dire que maintenant il y a des hommes d'affaires qui sont riches, hein, et qui n'ont pas de liquide pour acheter à manger, hein. Moi, j'en ai vu.
Durant cette deuxième intifada, c'est le cycle infernal, répression par l'armée israélienne, attentats et attaques par des groupes armés palestiniens. La répression par l'armée est très dure en Cisjordanie. Absolument. Et il y a un événement extrêmement important qui survient au cœur de l'intifada, le 11 novembre 2004, qui est une date qui a marqué, je pense, tous les Palestiniens, c'est la mort d'Arafat.
Oui, oui, parce que... Ah, c'est le seul sujet où je ne me sens pas libre de vraiment parler. Mais jusqu'à maintenant, c'est un énigme. Et il a été tué d'une manière très sophistiquée. Et jusqu'à maintenant, tout le monde manque de preuves.
En tout cas, il y a une certitude, c'est que c'est un deuil terrible pour tous les Palestiniens.
Oui, c'est vrai, surtout que bon, il a été encerclé à Ramallah. Vous voyez, on a le même sentiment comme l'encerclement de Gaza maintenant. Je veux dire par là, à l'époque, tout le monde voyait Yasser Arafat prisonnier des Israéliens dans sa présidence, et l'armée était tout le temps autour, qui défonçait un mur un jour et qui encerclait tous les jours un peu plus. Il était prisonnier et surtout, l'armée israélienne a voulu l'humilier. Politiquement, il a été humilié d'être coincé, encerclé. Tous les États du monde voyaient jusqu'à quel point l'armée israélienne est allée. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions de la communauté internationale pour le sauver, ou même pour sauver le processus de paix des accords d'Oslo, parce que c'est lui. Et c'est vrai que c'était une souffrance populaire. Tu vois, le matin, on se réveille, alors où est-ce qu'ils sont arrivés, l'armée, et quand est-ce qu'ils vont l'avoir ou pas l'avoir, et après, ils tombent malades, une maladie mystérieuse jusqu'à maintenant. Et après, on voyait quand il est parti, quand il est monté dans cet hélicoptère, qu'il était dans un très mauvais état. Moi, je fais partie des gens qui ont cru qu'on n'allait pas le revoir. Et à l'époque, que Dieu ait l'âme de Jacques Chirac, qu'il l'a pris en charge, qu'il l'a amené pour le faire soigner en France. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas le dossier médical de la mort de Yasser Arafat. Personne ne l'a vu, sauf les très concernés.
Cette intifada va finir par être écrasée par l'armée israélienne. La situation devient relativement calme. Les années 2010 vont être plus calmes, en tout cas. Et vous, Anouar Abou Aïché, vous allez prendre du galon, comme on dit, puisque vous devenez ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne en 2013. Oui. Quand vous prenez vos fonctions, quelles sont vos ambitions culturelles pour la Palestine ?
Oh là là, j'ai préparé 36 objectifs. Mais comme je ne suis resté qu'un an, je n'ai réalisé que 4 ou 5. Parmi mes objectifs que j'avais vraiment envie de le faire, et je crois que si j'étais resté 3 ans, je serais arrivé. J'avais des plans pour des centres culturels, 6, pour les villages marginalisés et pas loin de murs de séparation. J'étais content d'être ministre de la Culture. J'ai beaucoup travaillé. J'étais le seul ministre qui dormait au ministère. Et j'avais envie de réaliser quelque chose, quoi. Mais je vais vous dire, quand vous êtes au conseil de ministres et vous entendez à côté de vous le ministre de la Santé qui dit « si on paye pas les fournisseurs la semaine prochaine, il y aurait plus de médicaments pour le diabète », vous n'osez pas trop demander un budget. Je me souviens aussi du ministre des Affaires Sociales, lui qui disait « mais vous vous rendez pas compte que ça fait 2 mois, ça fait 3 mois qu'on n'a pas payé aux pauvres ?» Parce qu'il y avait des dizaines de milliers de pauvres qui profitaient des aides humanitaires. Et bien après, vous êtes un peu gêné. Quand je suis allé voir, après, en dehors du conseil de ministre, je suis allé voir le ministre de la Planification. Et je lui dis, écoute, je voudrais bien ces messie centres culturels. Il a éclaté de rire et il m'a dit, si tu en auras un, considère-toi heureux. C'est à quel point, et encore, la crise financière n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Ce que je me souviens surtout, et ça c'est une anecdote que j'aime bien, enfin parmi les choses politiques que je retiens le plus, c'était quand j'étais ministre. À l'époque, il y avait John Kerry qui faisait la navette entre Israël et la Palestine, pour encore arriver à remédier les choses et arriver à un accord de paix.
Il était secrétaire d'État américain, ça veut dire ministre des Affaires étrangères.
Absolument. Et Israël a signé, à cette époque, de libérer tous les prisonniers palestiniens qui étaient, les prisonniers politiques, qui étaient là avant les accords d'Oslo en prison. Et il restait 25. Et ces 25... Netanyahou a dit « Je ne les libère pas ». Mahmoud Abbas qui lui répond « Puisque Israël ne respecte pas sa signature, eh ben on arrête les négociations ». Et bien depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. Vous voyez c'est comment Netanyahou est si doué pour arrêter toute avancée vers la paix. On le voit bien, c'est toujours la même tactique. Hein. Il trouve quelque chose pour qu'on arrête, qu'on dise non, et il a réussi toujours à bafouer, rendre difficile tout continuer en négociation. On l'a bien vu dernièrement.
Et donc tous ces blocages politiques, institutionnels, vous en êtes la première victime en tant que ministre de la Culture. Les dossiers ont du mal à avancer.
Absolument, absolument, oui. En fait, on manque de moyens. Maintenant, bon, pour donner une idée aussi aux gens qui m'écoutent, je disposais quand même de 5 millions de dollars par an pour les activités culturelles. Mais c'était presque une aide conditionnée C'était, on appelait ça la caisse norvégienne. Bon, pas des conditions inacceptables, mais c'est vraiment pour des projets culturels, que ce soit associatif ou pour les gens de la culture. Je pouvais pas, moi, pour m'expliquer, je pouvais pas disposer de cet argent pour construire des centres culturels. C'est pas prévu dans cette convention de coopération. Mais ça reste quand même minime. Mais j'ai envie de dire que ça m'a permis de découvrir la richesse des productions culturelles chez les Palestiniens. Nous avons vraiment non seulement un patrimoine culturel, mais les gens de la culture, les cinéastes, les artistes, les peintres, les poètes, les écrivains, il y a une abondance de production, on le constate, hein, et de plus en plus. Actuellement, regardez, on est déjà à faire des films sur ce qui s'est passé à Gaza, alors que c'est très difficile de contacter les gens de Gaza. Et ça m'a réconforté, parce que moi je crois à la lutte culturelle, je crois à la lutte non violente, je crois que les gens de la culture ont joué un très grand rôle pour avancer la cause palestinienne, pour faire connaître la cause palestinienne. Et je crois que ça continue, et de plus en plus. Je donne un exemple. Par exemple, l'art de cinéma. Nous, on était nuls dans l'art de cinéma, mais depuis des dizaines d'années maintenant, on a des cinéastes qui sont de plus en plus nombreux et productifs et très, très efficace, hein. Moi, ça me fait plaisir.
Il y a la culture contemporaine dont vous venez de parler. Il y a aussi tout le patrimoine palestinien, qui est d'ailleurs classé à l'UNESCO. J'ai vérifié la liste. L'église de la Nativité de Jésus à Bethléem. Les oliviers et les vignes à Batir. Donc là, on est au sud de Jérusalem. La broderie palestinienne. Oui. Et puis, j'espère que je vais bien le prononcer, la Hikai.
Cahier, oui, c'est les
expliquez-nous
les anecdotes, les petites histoires. Est-ce que les grands-mères et les grands-pères racontaient comme histoire aux enfants aussi? Et ça a toujours une signification. Et ça fait partie de l'éducation populaire de cahiers pour rendre moral les gens, pour enfin bon, ça fait partie de l'éducation, oui.
L'éducation orale.
L'éducation orale populaire, voilà, qui est permis et ouvert à tout le monde. On peut être une alphabet et doué pour le Hekaya. Et oui, alors là, ça me donne envie de parler de la reconnaissance d'Hébron en tant que patrimoine culturel pour l'humanité. Alors, l'histoire a commencé en 2007. Le maire d'Hébron et un maire français, le maire de Belfort à l'époque, Étienne Botsoir, et il y a Daniel Brouillet, maire, ex-maire d'Arcueil aussi, qui était là, et moi. Et ça a commencé en 2007, et ça a continué jusqu'à 2017 pour obtenir le statut de patrimoine universel de l'humanité en danger. Et donc, sur le site de l'UNESCO, vous avez Hébron deux fois, patrimoine universel de l'humanité et patrimoine universel de l'humanité en danger. Et ce qui était choquant, c'est en 2017, lorsque ça a été annoncé et décidé par l'UNESCO, la réaction de Netanyahu, c'était de donner aux colons à Hébron 5 millions de shekels, 1 million et quelques euros, pour fonder un centre culturel juif à Hébron. Et en tout cas, les pauvres de l'UNESCO ne peuvent même pas se rendre sur place, ni pour vérifier à Jérusalem, ni à Hébron. Oui, en fait, parler de patrimoine culturel et de la culture, ça évoque beaucoup de sujets, et surtout, cette interdiction aux Palestiniens, interdiction de fait, d'entretenir leur patrimoine souvent. Maintenant, dans certains endroits, on y arrive. Mais quand c'est dans la zone C, par exemple, on a beaucoup, beaucoup d'anciennes églises romaines et des sites même plus vieux que ça, qui sont inaccessibles pour nous, pour entretenir ou pour faire connaître.
Je le disais en introduction de cet épisode, on va évoquer le conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre, puis la destruction quasi complète de Gaza. Le 7 octobre 2023, selon vous, de votre point de vue, qu'est-ce qui se passe? Comment vous caractérisez ce jour?
Alors là, je ne veux pas parler politique, j'ai envie de parler de ma conviction personnelle. Ma conviction personnelle, et c'est logique, étant donné que Netanyahou a entretenu Hamas au pouvoir à Gaza avec l'argent qatari depuis de longues années, moi je crois que Netanyahou et ceux qui sont proches à lui étaient au courant qu'il y allait avoir quelque chose. Comment je constate ça? J'ai vu des témoignages d'Israéliens qui sont sur YouTube. Le premier témoignage que j'ai vu quelques jours après, c'était les soldats qui étaient à l'observation de la frontière et qui ont dit « Mais comment ça peut arriver ? Nous, on pouvait voir, même s'il y a un cafard qui traverse la frontière, on le voyait. Comment ça se fait ?» Alors, il y a eu beaucoup de témoignages. Moi, je crois que c'est Israël qui a favorisé la création de Hamas pour contrer l'OLP, a réussi enfin à laisser faire ou à pousser Hamas à commettre des actes pareils, justement pour avoir le prétexte pour en finir avec Gaza, et on voit le résultat. Là, Gaza n'existe pratiquement plus, et on ne sait plus quoi faire de pauvres Gazaouis qui sont dans des situations inimaginables de misère. J'ai envie de... Vous savez, quand je le regarde, je me dis, mais comment tant des gens dans quelques petits kilomètres carrés, mais où sont les toilettes? On n'en voit jamais. On n'y pense pas quand on est loin. Mais je peux vous dire que... Je me demande comment ils se lavent. Où sont les toilettes? Tellement la situation est misérable pour ces Gazaouis. En tout cas, pour revenir au 7 octobre, donc je crois que le 7 octobre, c'était un grand service pour Netanyahou.
Le 7 octobre, ça faisait à peu près une trentaine d'années que Netanyahou était au pouvoir. Ça faisait aussi une trentaine d'années que le Hamas menait des attentats suicides en Israël. On a l'impression que ça fait 30 ans que ces deux partenaires, entre guillemets, s'entendent pour que la paix ne se fasse pas. C'est votre avis?
Moi, je crois que oui, ni l'un ni l'autre avaient intérêt à la paix. Le Hamas disait qu'ils veulent plutôt la résistance armée, et Netanyahou, il ne veut pas d'une paix avec les Palestiniens surtout, parce que, comme il l'a dit récemment, il est partisan de Grand Israël. Et Grand Israël, c'est de Nil à l'Euphrate. Tout ça, c'est bien documenté, et on voit que lui et que le système israélien est un système de guerre beaucoup plus que de paix dans tous les domaines. Quand on regarde les exportations des expériences sécuritaires militaires israéliens, c'est devenu une industrie en Israël. L'industrie des armes en Israël dans tous les domaines. Hein. C'est une industrie florissante. Et les riches de ce monde, les riches d'Israël, les hommes d'affaires ont intérêt à ce qu'il y ait tout le temps des guerres pour commercialiser leur production tueuse.
Est-ce que les Palestiniens ne sont pas aussi les premières victimes du Hamas, c'est-à-dire quand le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza et chasse le Fatah, eh bien les Palestiniens, qui étaient déjà divisés géographiquement, sont très divisés politiquement.
Ça nous a cassé le dos, cette séparation, effectivement, parce que ça a donné encore une fois l'occasion à Netanyahu pour dire avec qui vous voulez qu'on négocie, avec Gaza ou avec la Cisjordanie. Netanyahu a toujours voulu diviser les Palestiniens, les démanteler. Ils ont créé sur le terrain des ventes aux stands et maintenant ils parlent, hein, le gouvernement israélien parle de principautés dans la Cisjordanie. Et ils veulent commencer par la principauté d'Hébron avec des tribus. Bon, tout ça, c'est vraiment une perte de temps. Et c'est vraiment pour affaiblir l'OLP et l'autorité palestinienne.
À titre plus personnel, Anouar Abou Eiché, vous nous parliez dans un épisode précédent de vos enfants, Anan et Jamal, qui sont nés en France, que vous avez emmenés avec vous à Hébron en 96. Aujourd'hui, ils ont fait le chemin dans l'autre sens. Ils vivent en Europe. Est-ce que c'est le retour à la case exil pour les Abou Eiché?
J'espère que c'est très provisoire. Et en tout cas, je sais qu'ils veulent bien retourner chez nous, à Hébron. Maintenant, malheureusement, la situation est tellement dure et qu'il n'y a plus de perspectives. J'ai mal qu'il a envie de travailler dans une université. Je ne sais pas s'il trouvera de travail. Ma fille qui est médecin, ça fait... Enfin bon, c'est devenu invivable pour elle et pour son mari. Tout le peuple palestinien maintenant, que ce soit à l'intérieur ou même en diaspora, notamment dans les camps de réfugiés, vivent des situations de plus en plus difficiles dans tous les domaines. Et je garde l'espoir de les voir un jour à Hébron. Je crois que ça arrivera.
De leur vivant, de votre vivant?
Je l'espère, oui. Vous savez, une des plus grandes surprises de ma vie, c'est les accords d'Oslo. Et je me dis, ben peut-être qu'il y aura une autre surprise très bientôt, genre les accords d'Oslo. Je reste optimiste.
Merci, Anouar Abou Eiché.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Anouar Abou Eiché, réalisation Franck Lilin, prise de son Hélène Langlois, chargée de programme Daphné Abgral. Une série de Frédéric Mettezo, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.